voix nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dian rencontre Barbara Hendricks. Ce soir, une cantatrice qui ne veut pas être une diva.
Barbara Hendricks, Janie Tourelle, elle a eu quel type d'influence artistique sur vous? Je veux dire par là, est-ce qu'elle a travaillé plutôt autour de la discipline, de l'apprentissage des partitions? Sur quel rail elle vous a installé?
Mais bon, d'abord, quand je suis arrivée à la Juilliard School, j'avais jamais étudié la musique. Je chantais comme ça. Mais je ne pouvais pas lire la musique. Je ne pouvais pas jouer le piano. Bon, le solfège, c'était pour moi un calvaire. Horrible. Le solfège. Mais tout, l'histoire de la musique, les compositeurs, la diction, tout. Chaque année, on avait une langue. On concentrait sur la diction, sur la grammaire. C'était pas les leçons pour apprendre à parler, mais pour pouvoir chanter. Et on chantait un répertoire italien la première année. Deuxième année, c'était, je crois que c'est allemand, troisième français. Et le quatrième, anglais, parce que l'anglais, c'est, pour chanter, c'est une langue assez ingrate. On a des voyelles qui sont vraiment, qui sont vraiment pas très musicales. Et bon, il faut, on a dû étudier pour pouvoir le chanter aussi clair que possible. Mais, j'avais tout ça à apprendre. Et moi, je me suis dit, en arrivant dans le train, je ne sais pas où je vais. Je n'ai même pas devant moi une idée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est quelqu'un qui chante la musique classique. Mais j'ai entendu parler un peu du nom de Maria Callas et bien sûr de Leontine Price, de Marian Anderson, des femmes noires qui ont lutté pour ouvrir les portes qui étaient ouvertes pour moi quand je suis arrivée et commencé ma carrière. Mais j'étais, bon, à côté d'autres étudiants qui ont commencé à jouer le violon à 4 ans, le piano à 3 ans. Je savais rien. Et bon, j'avais décidé, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je serai comme une éponge. Et j'espère que j'avais tout prendre vers moi, toute la connaissance que j'ai besoin, que quand à la fin de ces études, là je peux prendre une décision. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour continuer? Est-ce que je dois continuer? Oh, est-ce que je vais retourner à l'université et devenir chercheuse ou médecin ou même avocate? Je ne savais pas.
J'imagine quand on rentre à la Juilliard School, on est quand même assez convaincu qu'on peut faire carrière.
Non.
Non.
Il y a certains, oui. Certains gens qui sont...
Pas vous.
Oui, parce que leurs parents ont dit depuis la naissance qu'ils seront le prochain Heifetz, quoi.
Et en plus, vous êtes, j'allais dire, en porte-à-faux par rapport à la culture de cette école, qui est de la technicité et ainsi de suite aussi. Vous arrivez et c'est pas la technique qui vous plaît, c'est autre chose.
Oui, mais c'est pour ça que c'était vraiment très important, la rencontre avec Janie Tourelle. Parce que d'abord, j'ai dit... J'arrive, je vais essayer d'apprendre. Cette ville, New York, c'est plein d'artistes de différents styles, différentes sortes. Je vais juste essayer d'apprendre le plus que possible. Et l'autre chose, pour moi, rebelle de fille de pasteur, quand même, j'avais besoin d'avoir une raison de faire ce que j'allais faire. Parce que, pour moi, le chant était toujours plaisir. Malgré ma rébellion, j'étais quelque part très protestante. Ah oui. J'ai dit, mais on ne peut pas faire quelque chose comme métier qui te donne tellement de plaisir. Il faut aider les autres, il faut faire quelque chose qui redonne à la société, à la communauté. Mais ça, juste pour faire quelque chose parce que tu trouves ça est fantastique, ça ne suffit pas. Et en travaillant avec Janie Tourelle, on n'a pas travaillé la technique, juste pour travailler la technique. Elle m'a demandé, est-ce que tu as chauffé la voix? Je lui ai dit, un petit peu. Elle dit, OK, on fait quelques gammes pour chauffer la voix. Et là, mais la leçon commençait quand elle a dit, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Quelle partition? Je présente la partition, on travaille. Mais on travaille la musique. Et là, où il a un problème, s'il a un problème technique, là, elle arrête, on travaille sur ça. Elle a dit, voilà, ça, ce tri ou quelque chose comme ça, ça doit être plus facile. Il faut travailler ça. Mais on cherchait tout par la musique, pour faire vivre la musique. Et là, je commençais parce qu'elle chantait encore, Je crois que là, quand j'avais commencé, elle avait mon âge, en effet. Mais elle chantait encore et très bien. Elle faisait des récitals. Et là, je regardais ses concerts, je regardais. Et je dis, voilà, ça, c'est un artiste. C'est ça que c'est un artiste. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours à la service de son art, qui est toujours derrière le compositeur. Et je lui dis, mais si moi, si je peux devenir un artiste comme elle, c'est une chose aussi noble que d'être médecin, d'être professeur. Parce que je vais faire partager quelque chose qui est là, dont on a besoin. Elle n'était pas le plus grand technicien vocal. En plus, moi, je n'aimais pas du tout ça. Quelque part, j'avais presque peur de les conversations de technique vocale. Quand les autres étudiants commençaient par des techniques, j'en avais pas grand-chose à offrir parce que je dis, mais je ne pense pas comme ça quand je chante. Je ne pense pas où placer le son. Je chante la musique. Là où je fais plus de travail que peut-être que d'autres, qui c'est en regardant la partition comme une sorte de Bible qui me dit l'intention du compositeur et d'essayer d'être vraiment vrai à ça. Et ça, c'est quelque chose que Jenny Turrell avait fait aussi. Et là, revient le mathématicien en moi qui en fait ça exactement comme il s'écrit. Et après, en faisant ce travail, on voit qu'avec le temps, la liberté vient d'elle-même. Et c'est ça l'importance de ce travail avec elle, parce qu'elle a déjà eu, à la fin de sa carrière, elle était la preuve qu'on pouvait être un artiste comme elle, sérieuse, passionnée, et que ça pouvait marcher.
Quand votre carrière démarre très rapidement, on ne va pas brosser l'ensemble des lieux où vous avez pu exprimer ce talent-là. Ce fut surtout la rencontre avec des chefs qui fut aussi déterminant dans l'évolution de cette carrière, dans la maîtrise, l'épanouissement total de cette voix. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ces premières rencontres avec Karajan, avec Abado, avec tous ces grands chefs qui ont ponctué votre propre carrière? Et comment surtout ça se passe?
Bon, au début, quand j'étais à la Juilliard School, je chantais aussi dans les opéras, quand beaucoup des œuvres contemporaines qu'on n'a jamais plus entendu parler, tant mieux, certes pour certains. Mais il avait toujours les agents qui venaient à l'école pour écouter les productions, l'école. Et moi, je chantais un petit rôle dans la flûte enchantée, qui était le premier garçon. Et de là, il avait un monsieur de Columbia Artists qui a téléphoné à Jenny Turrell et a dit que bon, j'aimerais travailler pour elle quand elle termine l'école. Et ça a commencé quand j'ai terminé, quand j'ai eu mon diplôme, parce que là, j'ai eu un diplôme en musique, quand j'ai terminé les études. Je commençais tout de suite avec cette agence, qui était l'un des plus grands des États-Unis. Et bon, ils m'ont commencé de faire des auditions pour les chefs d'orchestre, qui étaient en voyage avec leurs orchestres, en tournée aux États-Unis. Aussi les chefs d'orchestre qui étaient chez eux, comme Abado, Icarian, mais j'ai aussi fait une audition pour Barenboim.
Lorin Mazel.
Non, j'ai pas fait une audition pour lui. Mais c'était Barenboim qui était chef d'orchestre de Paris à l'époque. Mais aussi Scholte, qui n'était pas avec Columbia, mais qui avait l'orchestre de Chicago. Et j'étais engagée par ces chefs-là. J'étais engagée avec Barenboim pour chanter La Damoiselle élue de Debussy, ici. Mais Karajan, j'avais fait l'audition avec le Requiem de Brahms, mais la première chose que j'ai chantée avec lui, c'était le 9e Beethoven au Japon. Avec Scholte, c'était Mozart, et c'était le Requiem de Brahms avec Abado à Philadelphie. Mais j'ai commencé vraiment avec les grands chefs depuis le début, à cause le fait que je fais ces auditions. Et bon, après un premier contact, j'étais engagée et c'est comme ça que ma carrière a commencé. Et la rencontre avec Herbert von Karajan était très important pour moi.
Racontez-nous la première rencontre avec lui.
D'abord, c'était une audition. On était plusieurs. Il nous a dit, comme vous êtes tellement... Parce qu'ils ont décidé parce que, de ne pas juste prendre les artistes chez eux, de laisser aussi d'autres chanteurs chanter pour lui, qui étaient avec d'autres agences. Et bon, on a été beaucoup. Et il a dit, il a juste le temps pour un seul air pour chacun. Je dis, OK. Bon, je viens, je chante un air de Mozart. Et je chante un air de concert de Mozart. Et bon, je sors. Et après, il m'a dit... mon agent qui était à côté de lui, qui avait dit que je chantais Michaela, qui avait menti parce que je n'ai jamais chanté Michaela. C'est sous la liste des rôles que peut-être j'allais faire, mais je ne connaissais pas l'air. Et bon, il m'a demandé, Michael m'a dit que vous chantez Michaela. Est-ce que vous avez l'air? J'ai dit, non, maestro, parce qu'il nous avait dit qu'on allait chanter qu'un seul air. Ah, je n'ai pas les partitions. Mais je vais derrière pour voir si quelqu'un a la partition de Carmen. Je vais juste demander. Bon, je suis allée. Et je dis, mon Dieu, si quelqu'un a la partition de Carmen et vous le dites, moi, je vais le tuer. Il ne faut pas le dire. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et bon, j'allais répéter pour un récital. Et j'avais avec moi la musique de récital. C'était les leads, des mélodies. Et j'avais de Franz Liszt, Au quand je dors, de Victor Hugo. Et moi, je dis au pianiste, voilà, moi, je vais parler. Et quand j'arrête, il ne faut pas attendre, joue. Et bon, je suis retournée, je dis, mais maestro, je suis désolée, personne à la partition de Carmen. Et moi, j'habite vraiment loin d'ici, je ne peux pas aller chercher. Mais, comme j'allais faire une répétition pour mon récital que je prépare, j'ai quelque chose en français, si c'est... parce que je ne savais pas s'il voulait savoir si je pouvais chanter en français. Pourquoi il m'a demandé ça? Et je vais le chanter et je suis sûre que vous allez aimer. Et voilà, il a commencé de jouer et j'ai chanté Au quand je dors. Et de là, il m'a invité de venir à Berlin pour le voir de nouveau. Mais il était malade. Et bon, je suis retournée parce que je ne pouvais pas rester. Je n'avais pas de l'argent de rester à l'hôtel. Et on ne s'est pas vu pendant 2 ans. Et 2 ans après, il est venu à New York de nouveau. Il avait demandé à un des agents de Columbia Artists, « Ah oui, la petite qui a chanté pour moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a dit, « Oui, elle est là. » Et bon, j'ai eu à cette époque-là, j'habitais à Paris. Et mon mari était mon agent. Et lui, il a contacté Karianne pour lui dire, « Voilà, j'étais là et il m'a invité. Il a dit, bon, j'aimerais inviter, je vais faire une tournée au Japon de venir chanter dans le 9e Beethoven. Et c'est comme ça qu'on avait commencé. La première fois que je chante 9e Beethoven avec Karianne devant 5000 personnes parce qu'il avait fait son concert dans un sorte de temple bouddhiste parce que le chef des bouddhistes était un grand fan de Karianne et ils n'ont jamais eu des concerts là. Mais non. Et cette première répétition, moi, je pensais qu'il allait faire juste le 4e mouvement avec le chœur et nous. Mais il avait commencé de répéter la symphonie depuis le début, comme si c'était la première fois que l'orchestre avait vu la partition. C'était magique. Magique d'être, je dis, mais est-ce que vraiment je suis assise ici pour écouter ça? C'était extraordinaire, comme il a travaillé avec l'orchestre. Et après, quand on avait commencé de chanter, il a dit à l'orchestre, si vous pouvez pas l'entendre, vous jouez trop fort. Je veux entendre sa voix. Le travail avec Karianne était dans vraiment... Il avait pour lui une différence entre un pianissimo et un pianissimo. Hein? Il avait une différence. Ah, il faisait cette différence, mais j'ai beaucoup appris. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que la relation que j'avais avec lui n'est pas une relation des chefs d'orchestre qui traitent souvent les chanteurs comme vraiment des idiots. Je dis, il dit, vous dites tout, je vous chantez la phrase comme ça. Mais lui, il avait fait sortir de moi le musicien en moi. Et il a soutenu ce que j'avais fait. Je crois aussi parce que je faisais très attention à la partition. Je chantais pas n'importe quoi en ce qui concernait les dynamiques et les couleurs et les choses qui étaient écrites dans la partition. Et j'ai chanté toujours par cœur.
Vous êtes très peu à faire ça.
Aujourd'hui, maintenant, oui. Mais si on chantait, si vous chantez le 9e avec Carien ou même le Requiem de Verdi, chantez sans partition. Parce qu'il a dit que on était libéré de la partition. Et j'étais obligée, après des années, d'arrêter de travailler avec lui parce qu'il était un peu entouré des gens. D'abord, je crois qu'il ne voulait pas de moi autour de lui, qu'il voulait parce qu'il avait un agent qui voulait avoir ses chanteurs chanter avec lui. Moi, je crois, mais n'importe, c'est pas important. C'était le moment pour moi de continuer sur mon chemin en étant très reconnaissant et avec une énorme gratitude pour ce qui m'a donné l'importance de lui dans ma vie musicale. C'était une grande histoire d'amour via la musique.
C'était la même configuration avec d'autres chefs ou c'est à chaque fois des histoires différentes avec
Lorraine Mazel,
avec
Barenboim. C'est différent parce que les gens sont
évidemment
tous différents. Ils apportent des choses différentes.
Mais dans le rapport au travail, quand vous êtes là justement en répétition et avant
des fois j'avais affaire avec les chefs d'orchestre qui vraiment pensaient que la seule chose qui était importante, que c'est ce que lui pensait. Et la plupart des fois, je les laissais penser ça. Je dis, mais moi, je m'en fous. Si vous voulez dire que c'était votre idée, ce qui est important pour moi, c'est qu'on le fasse. Et si le chef dit, ah oui, c'est moi qui l'avais dit de faire ça, je m'en foutais totalement. C'était la musique qui comptait pour moi. C'était pas mon ego. Et bon, il fallait avoir un certain sens de la psychologie, de laisser le maestro penser que c'était son idée. Je dis, maestro, c'est génial, oui. Je suis d'accord avec vous. Et ça marchait souvent parce que les gens qui ont besoin de s'imposer, ils ont besoin d'être reconnus. Et bon, ça ne me coûtait rien.
Est-ce que ce rapport de force qu'on vit dans les orchestres est quelque chose qui vous est vraiment pénible? Vous arrivez à contourner tout ça?
Oui, c'est pénible parce que des fois, surtout si c'est un chef avec son orchestre, qui était le cas avec quelqu'un comme Mazel. Des fois, les répétitions, c'était effrayant. Il peut dire des choses, dire, mais pourquoi? Il faut essayer de trouver un moyen d'être au-dessus de ça. Alors, je lui dis, voilà, c'est quelqu'un qui était vraiment désagréable avec moi. Mais je lui dis, mais moi, je peux aller à la maison. Je n'ai pas besoin de ce job-là. Et j'ai trouvé avec certains chefs qui avaient une réputation pour être très difficile, comme Muti, par exemple. Tout le monde, je me souviens, la première répétition pour les notes sur le Figaro à La Scala, tous les autres chanteurs, même les hommes, ils tremblaient avant la première. Je dis, mais moi, je ne comprends pas, c'est un homme, quoi. Bon, il pouvait être difficile, mais quand on avait commencé le premier travail, avec toute la distribution et les doubleurs autour d'une table, ça commence avec moi, le Notte Figaro, première récitative. Cosa sta misurando, caro mio Figaretto? Ah. Une demi-heure. On a travaillé sur récitative, une demi-heure. Mais quelque part, parce qu'en plus, il a un tel amour pour sa langue d'italien, et c'est tellement beau. Et quelque part, je n'avais pas d'ego. Je dis, OK, oui, j'ai chanté ça pendant 20 ans, mais peut-être j'ai quelque chose à apprendre. Et bon, j'ai oublié mes collègues qui étaient autour et je commençais à travailler sur la récitative avec lui. Et là, depuis là, je n'avais pas de problème avec lui. Parce qu'il a vu que moi, j'étais là pour travailler et qu'il ne pouvait pas me gêner le fait que c'est lui le chef et moi le chanteur. Et c'était très bien.
Est-ce que vous avez des souvenirs d'avoir été malheureuse sur une scène parce que précisément les conditions de travail n'étaient pas bonnes ou le rapport avec le chef était délicat ou l'orchestre lui-même. Bref, est-ce que vous avez eu, malgré tous les bonheurs successifs que vous avez accumulés, quelques moments où vous êtes dit « c'est pas possible » ?
Oui. Ah oui, non, je me souviens de Rigolette à Vienne. Et moi, j'avais demandé d'avoir des jours supplémentaires pour répéter. En plus, il veut dire que moi, c'était à mes frais. C'est moi qui payais mon frais d'hôtel. Je répète avec un monsieur qui chantait vraiment bien, mais qui était toujours le deuxième Rigoletto, parce qu'il avait toujours les grands stars qui venaient pour faire la première, et lui faisait les autres. Et il m'a dit, c'était la première fois qu'il a eu une répétition avec Gilles, parce qu'il est toujours allé sur scène comme ça, sans répétition. Bon, on avait fait deux ou trois jours, après le ténor est arrivé, il était sympa, je dis, oh oui, peut-être ça peut marcher. Le Rigoletto, le jour de répétition que j'avais, et je le connaissais, un très, très bon chanteur, c'était bien. On a fait tout le, je dis, la mise en scène, je dis, on avait fait, c'était le traffic qui entre ici, qui part là. Je dis, OK. Le chef d'orchestre, il a vu l'orchestre. Qu'on est entré dans la fosse pour la première fois. Et bon, on commence. Bon, j'avais déjà chanté Rigoletto plusieurs fois. J'avais chanté Orange. J'avais chanté Bonne. Et bon, je connaissais très bien. Et voilà, le petit parti avec Rigoletto, ça marchait bien. OK, très bien. Ténor, il entre sur scène. Et je le regarde. Je dis, mais il n'est pas là. Il dit, ah, est-ce qu'il a personne? Non, je crois, tout ce qu'on avait fait dans la répétition, rien. Il voulait juste savoir où j'allais être physiquement sur la scène. Parce qu'il a le trac. C'était pas méchanté, il a le trac. Et à un moment donné, bon, je devais m'arrêter et dire au public, je suis désolée, mais tout ça, c'est de la merde. on peut pas faire ça. Bon, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Et les deux autres, je crois que là, j'avais quatre. J'ai fait deux avec le Rigoletto, numéro un. Troisième, je retrouve le type avec qui je répétais. Mais on s'amusait beaucoup parce qu'au moins, on a répété ensemble. Mais parce que l'autre, le chef voulait que lui, il se fatigue pas pour un autre spectacle qu'il était en train de répéter. Là, j'étais très malheureuse sur scène. Je faisais mon mieux. J'ai aussi le chef, il m'a dit, vous savez, à la fin du duo avec Rigoletto, tout le monde fait toujours, arrête pour faire cette note aiguë. J'ai dit, mais moi, je ne fais pas. Je dis, pourquoi? Si c'est pas, parce que ce n'est pas écrit. Je dis, et ça arrête. On peut, c'est comme dire, high note. Non! C'est un truc que Verdi a écrit jusqu'à la fin, qui doit continuer tout ce mouvement jusqu'aux dernières notes. Moi, je ne vais pas arrêter pour montrer que j'ai une note aiguë. Je dis, mais ce que je peux faire, au début du duo, moi, je mets devant la public, je chante la note, comme ça, tout le monde sait que je l'ai et que j'ai choisi de ne pas le faire. Mais le public a beaucoup aimé ma Gilda, et là, même que je n'ai pas chanté ce contre je ne sais pas quoi. Parce que quand j'avais fait la première fois à Orange, j'avais le fait. Et après, j'ai dit, mais ça tue la musique. Mais bon, là, j'étais malheureuse. Et ça, que c'est là où j'ai décidé, OK, je vais faire moins d'opéra, je vais faire que l'opéra où je peux répéter, où je peux avoir une relation avec mes collègues. Et c'est là où je commençais de chanter beaucoup à l'Opéra de Lyon, parce qu'il avait Jean-Pierre Brossman, qui avait les mêmes valeurs que moi. Et ça, c'était un travail pendant des années que je travaillais là, que j'adorais ce travail.
Vous avez croisé sur votre chemin une grande dame également, Maria Callas.
Oui. Elle est venue donner les masterclass à la Juilliard School. Et moi, j'étais sélectionnée d'être parmi ses élèves. La première rencontre avec elle, c'était pas très bien passé. Après, être choisie, elle avait eu un rendez-vous avec tous les élèves. Et c'était dans le studio de Jenny Turrell. Et quand je suis entrée, moi, j'en suis entrée chez moi. C'était le studio, mon studio. Mmh. Et j'étais assez décontractée, j'ai vu le président, je dis « hello » et je dis à Madame Callas « hi ». Et bon, j'attends, et elle attend. Et bon, elle m'a juste dit, voilà, elle m'a dit quelque chose que je... Elle trouvait que je devais perdre le poids, mais moi, j'étais mince ici. Et je dis, bah, oui, ok, d'accord. Il m'a donné les trucs que je devais acheter pour faire des gammes pendant l'été. Je dis, ok, très bien, merci. Elle a dit, je vous ai choisi pour mon cours. Je dis, bah, oui, merci. Mais comme ça. Et il semble qu'après, elle n'était pas du content avec moi. Parce que moi, je veux dire que je crois que la plupart des élèves sont entrés à genoux. On dit, oh, Madame Carlos, blablabla. Et moi, je suis pas faciale, j'étais un peu normale. Et comme j'ai dit, j'étais assez décontractée parce que elle était chez moi, dans le studio de Jenny Turrell. Et bon, il avait un doyen qui s'occupait de son cours qui m'a dit, ah oui, mais vous savez, Madame Carlos avait trouvé vous n'étiez pas respectueuse. J'ai dit, mais quoi? J'ai dit, mais vous avez. Est-ce qu'il a dit ça, le président? Parce que je connaissais le président. Il a dit, non, mais vous savez, elle va vous mettre en, pas suspension, mais elle va décider après l'été si vous serez dans la. Je suis dit, mais, soit je suis dedans, ou je suis dehors, mais je ne suis pas entre les deux. C'est à vous de décider. Et bon, finalement, j'ai acheté les trucs avec les gammes à faire que je n'ai pas fait. Ah, parce que je déteste ça. Et en plus, j'étais avec Jenny Turrell, je l'ai suivie en Europe, comme d'habitude à Paris, à Zurich, et après nous sommes allés à Jérusalem, où elle avait donné les cours, et je n'avais pas le temps de regarder ces trucs. Et en rentrant, bon, il a dit, ah oui, mais elle a décidé que vous êtes dans la classe. Oui, ok, tant mieux. Voilà. Mais sur scène, moi, je l'ai trouvée triste et seule. Et touchant, quand même. Parce qu'autour d'elle, il y avait tous ces gens qui parlaient. Ah, Maria, ah oui, là, Lucia de 50, je ne sais pas quoi. Ah, mais parlaient d'elle toujours dans le passé. Ah, et j'avais l'impression que tous les gens autour, qu'ils n'avaient pas vraiment confiance, que c'était vrai, c'était qu'ils avaient envie d'être avec elle parce que c'était à cause de Maria, pas à cause de Callas. Et pour moi, la chose la plus importante pendant le cours, c'était de regarder. Et je me disais, ouf, si c'est ça le prix qu'il faut payer pour avoir cette carrière, je ne sais pas si je suis prête à la payer.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Barbara Hendricks. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehorse, réalisation Jean-Christophe Francis, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.